voix nue. Cette semaine, Caroline Brouet rencontre Jacques Weber. Ce soir, mauvais élève, puis comédien.
Jacques Weber est incontestablement, quoique sa modestie l'en défende, l'un de nos plus grands comédiens vivants. Voix grave et profonde, fort en gueule, chaleureux, profondément humaniste, et possédant, à l'instar de son ami Gérard Depardieu, une grâce démesurée, l'homme dégage un charisme indéniable et exerce un charme autant qu'il agace par une verve et une autorité naturelle qui écrase tout sur son passage. S'il n'aime pas les expressions formelles comme monstre sacré ou géant du théâtre, il reconnaît volontiers en être un fidèle serviteur depuis 50 ans. Formé au théâtre, au Conservatoire National d'Art Dramatique, dont il est sorti avec le prix d'excellence à l'unanimité, il a joué avec des metteurs en scène aussi différents que Jérôme Savary, Robert Hossein, Jacques Lassalle, Roger Blanchon, Alain Françon ou Peter Stein, même diversité au cinéma, où il a tourné avec Costa Gavras, Yves Boisset, Louise Buñuel, Claude Lelouch, Jean-Paul Rapneau, Pierre Granet-Defer, Emmanuel Mouret ou encore Mai Wen. Mais celui que Philippe Lanson a joliment appelé voilà 25 ans l'ogre argenté a aussi dirigé deux théâtres à Nice et à Lyon, mis en scène de nombreuses pièces essentiellement du répertoire classique, renouvelé le genre du théâtre à la télévision et écrit plusieurs livres dans lesquels il se raconte. Dans le récit qu'il a consacré au personnage qui a fait sa renommée, Cyrano de Bergerac, il écrit « Né le 23 août 1949, Lyon ascendant, j'en sais rien, sans baccalauréat, mauvais élève, puis comédien, chaussant du 47,5, tendance à l'embonpoint et intellectuel sensualiste gourmand, plaidant pour le simple de façon très compliquée, je sais que l'enquête va être longue. » Eh bien, cher Jacques Weber, nous avons 5 entretiens de 30 minutes pour mener cette enquête. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous, ici à Suresnes, pour ces 5 entretiens à voix nue. J'aimerais qu'on commence non pas par ces quelques mots que vous avez gravés dans Cyrano, ma vie dans la sienne, mais par une autre phrase que j'ai extraite d'un autre livre, qui est l'entrée des mots. C'est le début de l'entrée des mots. Vous dites « Ma mère lisait dans la cuisine, mon père dans le salon. Elle écoutait Radio Luxembourg et lui Jean-Sébastien Bach. Parfois elle cousait et lui peignait. La maison sentait le thé près de la cuisine, la térébenthine près du salon, et tout autour de maman, le muguet qui était l'essence de son parfum. » Entrons dans ces avoies nues par cette phrase, par ces souvenirs-là.
Ça m'émeut beaucoup parce que je trouve que j'ai pas trop mal parlé, c'est pas trop mal écrit ça. Enfin, ça relate bien en tout cas le souvenir très précis, un peu dichotomique comme ça que j'ai, d'un père lointain, mais dans une sphère un peu cultureuse, plus cultureuse que culturelle, parce que je pense qu'il avait un peu de vanité, qu'il l'éloignait à mes yeux de ce que je sens comme une vraie connaissance ou une vraie culture. C'était un scientifique qui s'intéressait à beaucoup de choses, ça c'est vrai. Mais après, je pense qu'il était un peu péremptoire, et d'autant plus que j'étais toujours un peu agacé par la forme de mépris ou d'indifférence qu'il avait vis-à-vis de ma mère, et qui, comme je le dis très justement, ma mère était profondément à mes yeux poétique. Enfin, c'est-à-dire que il y avait des goûts simples mais profonds qui rythmaient la maison, qui rythmaient notre éducation, qui rythmaient la famille. Et ne serait-ce que cette odeur de muguet très extrêmement légère qui liait un peu le tout est une chose, est un souvenir extrêmement fort. Et puis oui, c'est vrai, c'est très très beau de savoir que le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner vont être prêts. C'est très important dans le parcours d'un enfant que la mère est là avec amour et que le rythme de la journée, c'est-à-dire petit déjeuner, déjeuner, donc ce retour de l'école, on revient dans l'antre familial, c'est prêt, la mère est là et elle y veille. Et ça, moi, c'est une chose qui me semble peut-être plus importante qu'un homme qui vous parle de façon un peu ostentatoire de Jean-Sébastien Bach. Voilà, c'est ce que je crois vraiment. Voilà, mais je n'ai pas d'amertume ou de... C'est pas que je n'aime pas mon père, j'ai aimé mon père, mais j'en voyais vraiment les contours et les défauts, ce que je ne vois toujours pas chez ma mère, voilà, pour tout dire.
Il vous a quand même transmis, ce père, un goût pour les sciences. Vous aimez beaucoup les sciences. Alors lui, il était plutôt physicien, chimiste.
Il était physicien, chimiste, et il avait rêvé de façon... D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui l'a un peu marqué toute sa vie, c'est qu'il aurait rêvé d'être... médecin. Il n'a pas pu l'être parce que l'argent qui était envoyé par son père à sa maman était ni plus ni moins détourné par sa maman, qui était une femme entre guillemets de mauvaise vie et qui se foutait profondément de ses enfants. Donc c'est pour ça d'ailleurs que après j'avais envie vraiment de pardonner beaucoup à mon père, ce que je parfois recevais comme une forme de mépris. Voilà.
Vous parliez du caractère, disons, plus cultureux que culturel de votre père. Est-ce que malgré tout, vous avez baigné dans une atmosphère culturelle? Est-ce qu'on lisait à la maison? Est-ce qu'on
écoutait parce la musique? Bah, d'abord, nous sommes à une autre époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de télévision, d'abord. Il y a très, très peu de gens qui ont la télé. J'ai une vieille tante que je déteste, qui a la télévision. Et lorsqu'on est obligé d'aller chez elle parce qu'elle nous garde, on voit cette télé en noir et blanc, mais elle ne regardait que les émissions de catch. Car le catch était très très vedette dans les toutes premières télévisions. Je me souviens qu'il y avait l'Ange Blanc et le Bourreau de Béthune. Par contre, ma mère adorait l'opéra, mais l'adorait, c'est-à-dire qu'elle en parlait très simplement, sans artifice technique. Et c'était très beau la façon dont elle aimait ça. Elle aimait beaucoup la littérature, mais elle en parlait aussi avec sa simplicité, ses moelles, je dirais presque sa timidité. Et voilà. Et je crois que c'est plutôt son rapport à elle, un peu candide, avec la culture qui m'a plus marqué que me proposait mon père. D'ailleurs, mon père m'a laissé ce truc, c'est que je n'aime pas les gens qui font étalage avec des grands mots. Je me suis rendu compte que la plupart des gens merveilleux que j'ai rencontrés, les grandes intelligences, sont extraordinairement simples dans la façon dont ils exposent les choses. En deux mots, on les comprend. Et lorsque je parle de moi en disant « compliqué », je dis à un moment que je complique des choses très simples, c'est un reproche que je me fais. C'est-à-dire, quand je dis « intellectuel », etc., c'est une forme de... Je suis narquois par rapport à moi-même. C'est-à-dire, j'aurais tellement aimé être un vrai intellectuel, mais un vrai intellectuel ne complique pas la chose simple. Il simplifie la chose compliquée. C'est complètement différent. Voilà, c'est ce que je crois.
Jacques Weber, est-ce que dans cette éducation, il y avait de la religion, de la croyance? Il y avait l'attente, mais il y avait aussi les scouts de gauche, où vous alliez beaucoup en
vacances.
Je vais
presque dire hélas. Alors, heureusement, parce que c'était l'époque des prêtres ouvriers, et il y avait quelque chose de l'ordre de l'église des pauvres, que je trouvais plutôt sympathique et généreuse. Mais en même temps, on était dans une paroisse, je peux la citer d'ailleurs, et je le fais volontairement, paroisse de Saint-Ferdinand, qui avait un peu pour mission d'avoir en son sein des dépravés. Quand je dis dépravés, c'est à tous les niveaux, soit des gâteux, soit des dépravés sexuels. Et je pèse mes mots en disant ça, mais je sais que sans en avoir une vraie conscience, j'ai su plus tard que on avait été nous-mêmes sujets à des choses pour le moins curieuses, comme la confession entre les pattes d'un curé, que vous savez, ils avaient des soutanes avec plein de boutons, je me souviens qu'il y avait 150 boutons, et il ouvrait le bas de la soutane, et il nous mettait à genoux la tête entre ses jambes. Point. Et après, comme punition, il nous disait, aller dire de notre père ou un je vous salue Marie, ce qui était la grande truc de l'époque, il nous mordillait l'oreille. Et très honnêtement, sur le coup, c'est là où je comprends tout ce silence de tellement de gens, c'est que sur le coup, c'était Dieu le Père. Parce que pour nos parents, le chef de la colo, le curé qui s'occupait de notre communion solennelle, la communion privée, etc., c'était Dieu le Père, c'était le représentant de Dieu. Donc on trouvait tout à fait normal tout ça. Et c'est après, j'ai lu un bouquin d'un auteur que vous devez connaître, s'appelle Jean-Baptiste Arand, qui était dans la même colonie que de vacances de moi, qui en parle et qui me met les points sur les i et qui me fait comprendre qu'il s'agissait bien d'une chose épouvantable. Au-delà de ça, je ne supporte pas tout ce qui est interdit ou loi religieuse. Je suis certain que nous avons tous besoin, et non même pas besoin, c'est inclus en nous la spiritualité, l'immanence, la chose d'en haut. Mais j'aime le mystère de la chose, non, mais je n'aime pas les lois et les religions. Je les supporte pas, quelles qu'elles soient. Et quand on nous ramène à la figure, et Dieu sait en ce moment si c'est le cas, les horreurs de l'islam, de l'intégrisme, islamisme et non pas de l'islam, bien évidemment que c'est effrayant. Mais il faut pas oublier que le monde chrétien, lui aussi, dans ses extrêmes, a créé des choses absolument abominables. Parce que ça nous paraît très lointain, l'Inquisition et compagnie, mais ça a quoi? Aux yeux de l'histoire, enfin de la grande histoire, c'est quelques centaines d'années, même pas. Et encore maintenant, quand on voit, par exemple, la façon dont on recommandait aux femmes d'être avec leur mari dans l'éducation religieuse, c'est à tomber par terre de conneries, de dictates, mais absolument effrayant, quoi.
Et moi, plus qu'anticlérical, aujourd'hui, vous seriez a-religieux?
Ah ben moi, je suis anticlérical, je n'aime pas le cérémonial des curés. Alors ça ne veut pas dire que j'aime pas les curés, ça serait une ineptie. Parce que quelqu'un comme Jean, le pape Jean, quand il écrit l'encyclique sur la fraternité, je la trouve tout à fait nécessaire et très intéressante. Elle n'est pas le fait d'un homme, l'homme n'est pas du tout scandaleux, il est plutôt touchant, je pense qu'il a les pieds nus et poings liés par la curie. Mais il est intéressant cet homme-là. Mais voilà, mais par contre, tout le cérémonial m'insupporte complètement, je le trouve extraordinairement dangereux. Et quand on parle du football comme d'un opium, je me dis que à une époque, moins de moins en moins maintenant, mais c'est remplacé. C'est remplacé justement par la tentation musulmane qui est un vrai problème aussi. Les religions, je pense que c'est c'est un peu de l'opium.
Jacques Weber, aux colonies donc des cœurs vaillants, les scouts de gauche où vous alliez tous les ans, et aux cérémoniales des curés ou aux interdits religieux que vous n'aimez pas, dites-vous, vous préfériez aller à l'école, où vous adoriez Madame Anjoula, votre maîtresse d'école. Ah oui, je vous rappelle des souvenirs.
Alors, Madame Anjoula.
Vous avez dit que c'était elle qui vous avait donné le goût de la lecture.
C'est ma petite verticalité. C'est ma petite bandaison. C'est évident. Ça fait quand même beaucoup d'effet, cette histoire. C'était une femme qui avait un tailleur visiblement faussement Chanel, peut-être. Mais enfin, un tailleur de pièces, vous savez, avec les très serrés au corps, des jambes sublimes, des bas sans la rayure au milieu. Qu'est-ce que la rayure au milieu me faisait penser aux grand-mères. Et là, c'était, et puis elle avait des talons un peu aiguilles, comme ça.
C'est la maîtresse d'école de
France. Maîtresse d'école de rêve, absolue. Et je me souviens qu'un jour, elle avait demandé la définition des pommes de terre, et personne n'avait levé le doigt, et moi je le savais, et je lève le doigt, et elle me dit, mais toi, tu peux pas le savoir, t'étais malade au cours d'hier. Et ça m'a... J'étais malheureux parce que je savais ce que c'était qu'une pomme de terre. Vous savez, c'est marrant, c'est des souvenirs extrêmement précis, ça. Et puis, je me souviens de cette petite sensibilité dans ma culotte, quoi. C'était très, très, très beau. Et c'est pas elle. J'étais trop gamin, mais c'est Madame Pierre qui, alors, elle était une vieille femme qui ressemblait à Louis XI démaquillée. Alors là, qui, elle, m'a commencé à me donner le goût des textes et particulièrement le goût de La Fontaine, entre autres. Ça, c'est un souvenir très, très précis.
Vous avez raconté qu'à 10 ans, vous aviez lu Le Comte de Monte Cristo, qui vous a marqué à jamais.
Oui, tout à fait.
Vous l'avez joué d'ailleurs.
Je l'ai joué. Et c'est marrant parce que j'ai dû le lire un peu à la... je sais plus comment, parce que j'avais mon frère qui lisait énormément. Le bouquin était là et il y avait aussi quelque chose de très important. Je recevais Tintin. Tintin était un journal hebdomadaire. Et c'était formidable, c'était mon Tintin à moi. Vous savez, on le recevait bagué comme ça, et dedans, il y avait des histoires extraordinaires, des aventures et des articles qui vous rappelaient tel ou tel héros. Et à un moment donné, était raconté en bande dessinée Le Comte de Monte Cristo, je me souviens. Et ça m'a donné envie de le lire, et je l'ai lu. Voilà. Alors je l'ai lu, j'ai pas tout pigé au départ, je trouvais ça parfois très long et très compliqué. Mais quand même, le bonhomme m'a fasciné totalement. Puis après, je l'ai mieux lu.
Vous dites que votre frère, qui était votre grand frère, lisait beaucoup. Vous trouvez que vous ne lisiez pas assez? Vous avez une sorte de complexe d'infériorité intellectuelle par rapport à votre frère?
Non seulement je l'avais, mais je l'ai encore. C'est-à-dire que c'est très, très bizarre. Je crois que j'ai une impatience considérable quand je lis. J'ai une sensation d'avoir un peu compris où ça allait assez vite, ce qui veut strictement rien dire, ce qui est une ineptie, parce que ce qui compte, c'est la nuance, c'est l'agencement, c'est le mouvement de la pensée. Or, si vous vous dites, ah bah oui, j'ai compris, c'est comme ça, que ce soit un polar ou que ce soit un livre différent, c'est pas bien. C'est tout le contraire même du rapport sensuel, lent qu'il doit y avoir avec la lecture. Et je connais pas bien ça. Je n'arrive pas à être lent avec le livre. Contrairement à ma femme qui, par exemple, retarde la fin du livre. Il y a des gens qui, quand ils lisent, ils retardent la fin. Ils sont là comme ça. Alors moi, non, j'ai presque tendance à avoir envie de passer, quoi. Je sais que c'est pas bien du tout. Et ça correspond à un truc dont m'a parlé Peter Stein, mon maître à l'heure actuelle, qui parle chez moi que mon grand défaut, partout, tout le temps, c'est l'impatience. Mais c'est vrai que c'est mon grand défaut, c'est sûr.
Voilà. Un patient, à cette époque-là, quand vous étiez encore enfant, insolent aussi, manifestement, assez déconneur. Vous étiez bon élève ou cancre, Jacques Weber ?
J'étais cancre. J'étais un affreux cancre. Et comme j'étais un affreux cancre, mais je le maintenais comme une espèce de fait d'arme. C'était ma seule façon à moi d'exister. Qui plus est, je me trouvais extrêmement inférieur. Pourquoi ? Parce que j'avais des culottes courtes, alors que la plupart avaient des pantalons longs, et que mes culottes courtes étaient taillées dans des anciens pantalons de mon frère ou de mon grand-père, parce qu'on n'avait pas beaucoup de sous. D'autre part, j'avais des très grands pieds et des chaussures orthopédiques, mais des chaussures orthopédiques qui, à l'époque, se voyaient énormément. Donc imaginez mes petits mollets tout blancs avec mes gros chaussures orthopédiques et ma culotte mal coupée. Et alors, je me sentais très moche. Et lorsque je faisais la queue au ticket d'autobus dans le 43 qui nous ramenait du lycée Pasteur, je me souviens, le lycée Pasteur, c'était le lycée des riches, hein. Attention, il ne fallait pas déconner. Et moi, j'étais le pauvre, et j'avais mon gros manteau maraud l'hiver, et je me souviens que moi, les filles refusaient presque les tickets que je leur donnais en avance. Vous savez, les tickets pour faire la queue ça n'existait plus à votre âge. Ben, nous, ça existait. Et alors, voilà. Alors, j'essayais de donner des tickets pour... Et puis elle en voulait pas, parce que j'étais le pauvre type, quoi. Donc voilà. Non mais, attention, n'exagérons rien, j'ai pas eu une enfance malheureuse du tout, je m'empresse de dire. Mais c'est vrai que si je vous en parle, ce sont des choses qui m'ont marqué beaucoup. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
On revient un temps à votre mère, qui a joué un rôle très important dans la découverte du théâtre, Jacques Weber, puisque elle aimait beaucoup l'opéra, disiez-vous tout à l'heure. Mmh. Elle aimait aussi beaucoup un acteur, Gérard Philippe, qui n'était pas la seule à l'aimer, hein, à cette époque-là, bien sûr. Gérard Philippe, c'était quand même un maître absolu et idolâtré par de nombreux spectateurs. Et vous vous souvenez des larmes de votre mère à la mort de Gérard Philippe? Elle a découvert ça en écoutant la radio.
Oui, c'est
la première porte d'entrée vers le théâtre.
C'est un fait qui m'a extraordinairement marqué, puisque ce jour-là, par hasard, où je devais être malade, enfin bref, je n'étais pas en classe, et il y a eu ce qu'on appelait à l'époque un flash d'information. À l'époque, ça faisait din din din, je sais plus comment, à la radio, on apprend, et c'était toujours très très brutal. On vient d'apprendre la mort de Gérard Philippe. Et là, je me souviens, toute ma vie, ma mère était en train de tricoter ou de travailler à partir des journaux Modes et Travaux, je me souviens. Et je la vois pleurer. C'est la première fois que je voyais ma maman pleurer. Et ça m'a totalement bouleversé. Alors après, j'ai entendu le magnifique discours très court de Jean Villard au TNP le soir même. Il avait les dons de la grâce seul, et ce lien de vous à nous, de vous à lui, seule la mort pouvait le rompre, elle l'a fait. C'était terrible. Et le lendemain en classe, j'ai appris que énormément de mes camarades, leur maman avait pleuré aussi. Et ça, c'est des choses qu'on a peut-être du mal à imaginer maintenant, mais un ange était passé, un vrai ange. Il était mort à l'âge des anges, c'était jeune donc sans âge, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était une chose qui a été très déterminante. Oui, c'est vrai.
La figure de Gérard Philippe et surtout la mort de Gérard Philippe et les larmes de votre mère, et l'avare que vous êtes allé voir.
Alors l'avare, c'est extraordinairement rigolo, parce que je vais voir l'avare, je suis émerveillé.
À la Comédie Française.
À la Comédie Française, et je peux vous citer la distribution, mais au millimètre. Alors vraiment, Jacques Léandre, Simon Engvaler, Geneviève Casilési, Élise, Georges Chamarra, Arpagon, enfin je peux tout le monde, Jean-Paul Roussillon dans ses débuts dans La Flèche, enfin je peux tout vous dire, tout le monde. Et bon, et je trouve ça formidable, magnifique, mais c'est surtout la toute fin. Il y a deux éléments qui m'ont marqué. D'abord, mon grand-père, qui était un vieux retraité, un peu rigolo, milliardaire, dont cette fameuse grand-mère de mauvaise vie profitait comme une malade. Et, et alors, il arrive, on se place, il parlait un peu comme ça, et il fait ma mère, qui était à côté, « Madeleine, ma place était ici ». Et il montre la scène. Alors déjà, ça m'a marqué mais énormément. Je trouvais ça complètement fou. Je me dis, mais où suis-je? Et à la fin, au dernier acte, il y a dans l'avare un ce qu'on appelle un Deus ex machina, c'est-à-dire le Seigneur Anselme, dont Thomas d'Arbouchy, qui remet tout en place, qui est le, comme par hasard, le père de Valère, le père de Truc, la fille, sa fille, c'est Élise, enfin bon, tout va bien, comme chez Molière, toujours à la fin, faut s'arranger. Et là, je me souviens que c'était un homme qui s'appelait Henri Roland, qui avait une diction absolument extraordinaire, comme ça. Et il arrivait du fond de la scène, avec des grands, grands coups de chapeau, avec plein de plumes magnifiques. Et la réplique était Qu'est-ce, seigneur Harpagon, qu'avez-vous? Je vous vois tout ému. Et la façon dont il faisait tram, papapapapam, papapipapam, papam, avec le grand coup de chapeau, pour moi, c'était le théâtre. Et là, c'est avec cette phrase collée au front, que je suis rentré chez moi, partageant ma chambre avec mon frère, et j'ai dit, Bernard, je fais du théâtre, et c'était fini. Et
à partir de là. C'était le début.
Oui. Non, mais ça veut dire que là, j'étais le pire des élèves de partout. Je regardais des classiques Larousse, j'ai planqué sous mes bouquins. Enfin, voilà, ça a été le début de tout, comme vous dites. Oui.
Cours Florent, École de la rue Blanche.
Alors, Cours Florent, ça vient un peu plus tard, mais assez rapidement. C'est au lycée Carnot où j'ai atterri, dans une classe d'adaptation où j'ai atterri. Donc, tous les tarés mis ensemble, les imbéciles mis ensemble, comme disait mon père. Et là, je vois une petite affichette, cours d'art dramatique municipaux, 37 francs par an. C'était rien du tout. C'était d'ailleurs la maman de Michel Berger, qui tenait ça, Annette Hans Hamburg. Et puis, il y avait un jeune prof de 24 ans qui s'appelait François Florent. Et c'était donc ses tout débuts de prof. Et le cours d'art dramatique se passait dans la salle où moi, j'avais des cours de français la journée. Et donc, on passait sur l'estrade avec le tableau vert, l'odeur de la craie et de l'encre. Et voilà, et le premier élève qu'il y avait chez Florent, c'était Francis Huster, c'était aussi Catherine Ferrand, qui est après devenue sociétaire de la Comédie Française. Et puis moi, qui arrive en 3-4e position, voilà. Puis ça a commencé comme ça.
Ça a commencé comme ça. Pas en parallèle, vous allez nous le dire, Jacques Weber, puisqu'à 16 ans, vous vous retrouvez à jouer au théâtre aux côtés d'un de ceux qui a été votre maître, qui est Pierre Brasseur.
Oui, ça c'est aussi une histoire assez rigolote, puisque un élève de la rue Blanche, puisque je suis à l'école de la rue Blanche, j'ai réussi à y être avec une dispense d'âge acceptée par Jean Meyer, qui était le patron de l'école à l'époque, j'avais 16 ans. Et un élève me dit « Oh, dis donc, c'est formidable, je dois passer une audition, c'est pour jouer avec Pierre Brasseur. » Pierre Brasseur, à l'époque, était un monstre sacré, un vrai, c'était absolument énorme. Et il me dit « Est-ce que tu veux me donner la réplique ?» Je dis « Oh, oui, pas de problème, bien sûr. » Et je me retrouve à jouer Alma Viva du Barbier de Séville pour qu'il joue Figaro et Harpagon pour qu'il joue La Flèche. Et on arrive, il n'y a pas de Pierre Brasseur pour l'instant dans la salle, il y a le metteur en scène, Jacques Réduval, et on commence nos scènes. On les joue très, très médiocrement quand même. Et d'un seul coup, j'entends une voix au fond de la salle, donc qui était venue dans le noir. « C'est pas celui qui passe l'audition, faut prendre, c'est la réplique. » Et c'était Pierre Brasseur. Imaginez ma gêne et ma joie. Ma gêne et ma joie, parce que pour mon pauvre camarade, c'était extraordinairement douloureux. Et puis pour moi, c'était extrêmement joyeux. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et à partir de là, Pierre Brasseur a été... Mon père de théâtre est aussi celui qui m'a tenu sous les fonts baptismaux de la nuit, quoi, parce que j'ai rencontré la nuit avec lui, parce qu'à l'époque c'était, on sortait du théâtre, on en faisait 2-3 cabarets, moi je buvais de l'orangina parce que je buvais pas d'alcool à l'époque, et lui était ne buvait pas de la Contrexéville. Et puis on terminait à l'aube, à la Cloche d'Or, on bouffait des soupes à l'oignon, et là je découvrais la vie de la nuit. Voilà, c'est un souvenir terrible. Et après, plus tard, il m'a fait répéter chez lui, boulevard Bonmarché. Il avait un petit théâtre avec des petites rampes en bois qu'il avait fait lui-même. Et il me faisait répéter mes scènes de concours.
Oui, parce que vous étiez au conservatoire.
Après, je suis au conservatoire. Regarde.
Le conservatoire, vous le passez en 66?
Ah, le conservatoire, je le passe extrêmement jeune, ouais, très très jeune, ouais, très très. Je suis un des plus jeunes qui le passe. Et quand j'ai mon concours de sortie, je suis un des plus jeunes aussi à passer le concours de sortie.
Prix d'excellence à l'unanimité.
Ouais. Alors, ce qui est quand même rigolo, parce qu'après, hélas, Pierre est mort. Mais la deuxième année, j'ai 2 seconds prix. Et à l'époque, on reçoit des petits télégrammes pour dire bravo, pour dire merde. Et toute ma vie, je me souviendrai, j'ai reçu les 2 premiers télégrammes que je reçois juste après l'annonce des prix. Pierre Brasseur, bravo mon petit gars, enfin je sais plus quoi, c'était magnifique. Pour moi c'était la consécration.
Qu'est-ce qui vous reste du conservatoire, de ce que vous avez appris? Est-ce que vous diriez que vous avez, Jacques Weber, appris votre métier d'acteur là-bas?
Non, mais ça fait partie de mon apprentissage, parce que j'ai la chance inouïe à cette époque-là d'avoir pour réplique des gens comme Jacques Viret, qui est un vrai génie, qui était, paix à son âme, de rencontrer Jean-François Balmer, de rencontrer Nathalie Baye, et de travailler aussi avec Francis Huster, qui même avec ses moments de folie, est quand même un type tout à fait incroyable. Enfin, à l'époque, était un acteur brillantissime, magnifique. Voilà, il y a Huppert qui met son petit bout de nez quelque part. Il y a plein de gens incroyables, Jean-Luc Boutet. On est toute une bande solide, très costaud, et ça, c'est le grand souvenir que j'ai. C'est surtout le partage avec des répliques que j'ai adorées, c'est-à-dire Baye, Viret, Balmer et tout. Il y en a certaines que je ne citerai pas parce que eux, je les ai pas adorées du tout. En même temps, vous savez, il faut toujours trouver le positif des choses qui ne vont pas. Mon prof était Robert Manuel, paix à son âme. C'était pas l'homme le plus élégant que la Terre ait connu. On pourrait même parler d'une forme de vulgarité, mais n'empêche qu'il m'a parfois rappelé à des règles essentielles, entre autres l'énergie d'une scène. Il disait du jarret, je me souviens, c'est du muscle. Enfin, non. Et c'est très important. Comme disait Jouvet, même quand tu joues un rôle calme, tu mouilles ta chemise. Et c'est très important. Et voilà. Donc, je n'ai pas d'acrimonie sur mes profs, mais ce ne sont pas eux qui m'ont apporté. Ce sont mes répliques, ce sont mes collègues élèves, et puis c'est le voisinage à l'époque de gens comme Pierre Brasseur. Puis après, j'ai eu la chance de faire des télés, Tartuffe, entre autres, avec Delphine Seyrig, dont j'étais fou amoureux. Je précipitais à la cantine de Butte-Chaumont, parce que je savais qu'elle aimait ça. Il y avait des croissants au jambon. Alors on coupait le croissant en deux et on mettait du jambon dedans, et je le présentais à Delphine. Oh, comme c'est gentil, avec sa voix, avec cette voix qui me faisait fondre totalement. Il y avait Michel Bouquet dans le rôle de Tartuffe, enfin, c'était du beau linge, comme on dit maintenant. Ouais.
Et alors, fort de ce prix d'excellence à l'unanimité, s'offre à vous une carrière d'acteur de la Comédie-Française, et voilà-t-il pas que vous refusez d'entrer à la Comédie-Française. Jacques Weber, pourquoi donc avoir refusé d'aller à la Comédie-Française alors que vous étiez promis un bel avenir là-bas?
Un mélange très très étrange. D'abord l'envie de pas faire comme tout le monde, comme d'habitude, toujours l'envie d'être rebelle, comme je l'ai dit souvent. Mais surtout, à l'époque, nous sommes très marqués par 68 et très marqués par des idées un peu abruptes, radicales, quoi. C'est-à-dire que le français, c'est la droite et le TNP, c'est la gauche. Alors donc, c'est une des raisons qui fait que je n'irai pas dans ce temple du capitalisme, de la bourgeoisie, etc. Enfin, c'était un peu ça quand même, faut pas oublier. Bon, c'est totalement crétin. Et en plus, ce qui m'a attiré au théâtre, c'est la Comédie-Française, avec des acteurs merveilleux. Hirsch, Piat, tout ça, je me précipitais, Charon, Roussillon, enfin, je peux vous les citer tous. Et puis l'autre chose, qui est peut-être plus profonde, c'est que il était question à l'époque d'alternance, c'est-à-dire que vous étiez capable de jouer un jour Alceste, mais le lendemain Brin d'Avoine ou La Merluche dans l'Avare, mais le surlendemain Fortinbras dans Hamlet, etc. Et donc tout ça me paraissait extraordinairement difficile, lors même que moi ce que j'aime beaucoup c'est d'être entièrement envahi, bouffé par un rôle, même si parfois ça crée des dégâts, ça en crée. C'est ma femme qui me disait ça, c'est que j'ai beau m'en défendre, mais les rôles m'atteignent beaucoup. Et alors que je dis, mais non, pas du tout. Mais si, c'est le matin. Ouais.
Jacques Weber, on vous retrouve demain pour la suite de cet entretien.
Si vous voulez bien.
si vous voulez bien. Bonne soirée à vous et à demain.
Et
merci.
Demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Caroline Brouet avec Jacques Weber. À voix nue, réalisation Vanessa Nadjar. Prise de son Nicolas Mathias, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, serait écouter ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.